Vous écoutez, on lit pour vous.
Ça donne vraiment la chienne de vieillir au Québec. Un texte de José Legault, publié le 14 janvier 2026 dans le Journal de Québec. La réalité est que le Québec est une société en vieillissement accéléré. Même si les démographes sonnent l'alarme depuis longtemps, les gouvernements, pour ne pas être obligés d'agir en amont, ont tous fait la sourde oreille. En 2021, 20% des Québécois étaient âgés de 65 ans et plus. Dans 5 ans, ce sera 25%. Et en 2071, 30%. Le problème central étant le suivant. Quand un tel vieillissement rencontre un réseau de santé et de services sociaux aussi dysfonctionnel que le nôtre, c'est la catastrophe garantie. Sans compter qu'il y a aussi des quarantenaires et cinquantenaires qui, maintenant ou plus tard, deviennent les proches aidants d'un conjoint ou membre de la famille en perte d'autonomie ou handicapé. Le Québec étant la seule province dotée d'un réseau parallèle privé de santé, quand on a de l'argent, pas de souci. Tous les services, ou presque, s'achètent ici à haut prix. Mais quand la santé vacille et qu'on fait partie de la vaste majorité sans fortune personnelle, le trouble commence. Même s'il est encore possible au public d'être bien soigné dans certains endroits, le fait est que depuis des années, les histoires d'horreur abondent. Descente aux enfers. On parle de maltraitance institutionnelle, d'urgence dangereusement bondée, de patients oubliés dans des corridors. Mardi, dans Le Devoir, l'autrice Jocelyne Robert relate à son tour ce qu'elle appelle avec raison sa « descente aux enfers d'une urgence ». On parle aussi d'hôpitaux vétustes, de manque de lits, de soins à domicile et de ressources d'hébergement de qualité, de proches aidants épuisés, de gestionnaires déconnectés, d'une déshumanisation croissante et documentée du réseau, etc. Au lieu de prévenir, les gouvernements ont enfilé les réformes mal ficelées, dont une hyper-centralisation délirante du réseau québécois de santé. Résultat, le personnel médical s'épuise ou se réfugie au privé. La création de Santé Québec a accouché d'une énième superstructure coûteuse et inefficace. Sans compter ce psychodrame inutile avec les médecins, suivi de la démission choc du ministre qui avait orchestré le tout. Bref, à moins de faire l'autruche, la vérité est que de plus en plus de Québécois ont déjà ou auront un jour la chienne de vieillir ici. Une maison de verre. Si le Québec fracasse les records d'aide médicale à mourir, la crainte de ne pas être soigné avec dignité et humanité n'y est sûrement pas étrangère. C'est pourquoi, en cette année électorale, les Québécois doivent exiger des partis politiques un plan de match crédible, apte à réparer un système de santé gravement brisé. Considérant l'ampleur des dégâts cumulés et le vieillissement rapide de la population, l'urgence d'offrir des soins et des services efficaces et à visage humain crève les yeux. Notre réseau de santé est une maison de verre au bord de l'éclatement. Il est temps de lui redonner une fondation solide. Il n'est pas trop tard, mais pour le faire, Il faudra au prochain premier ministre une intelligence et une volonté politique claire et surtout inébranlable. C'était « Ça donne vraiment la chienne de vieillir au Québec », un texte de José Legault, publié le 14 janvier 2026 dans le Journal de Québec.
Les ados veulent plus de contenu culturel québécois qui leur parle. Un texte de Vincent Brousseau, paru le 22 octobre 2025 dans La Presse. Que pensent les adolescents québécois des sujets qui les touchent? Régulièrement, La Presse ira à la rencontre de jeunes d'une école du Québec pour leur donner la parole. Cette semaine, on discute de culture québécoise avec des élèves de Gatineau. Si nos adolescents et nos jeunes adultes ne consomment plus de culture québécoise, cette dernière survivra-t-elle? C'est avec cette question en tête que j'ai rencontré 8 ados allumés de l'école secondaire Mont-Bleu à Gatineau. Ces finissants de 5e secondaire ont accepté de prendre leur heure du dîner pour parler de contenu culturel québécois. Je pose donc la première question, question de tâter le pouls de la salle. Qui a consommé de la culture québécoise au cours de la dernière semaine? Volontairement, demande Félix Gervais. Pendant un instant, j'ai peur. Les livres, les films, séries télé et chansons du Québec ne disent-ils tellement rien aux adolescents qu'il faut les forcer à en consommer? Mais non. C'est plutôt qu'en classe ces temps-ci, Félix doit lire le roman québécois « L'Orangeraie » de Larry Tremblay. Or, ce jeune guitariste ne se fait pas prier pour écouter de la musique québécoise. Beaucoup. De Plume la Traverse à Richard Desjardins, en passant par les Cowboys fringants et les Trois accords. Les apparences sont parfois trompeuses. On entend souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la culture québécoise. On a des raisons de s'inquiéter, mais au fil de la discussion, je m'aperçois que plusieurs des adolescents devant moi en consomment pas mal. Probablement plus que beaucoup d'adultes. Surtout, ils estiment que la survie de la vie culturelle québécoise est un enjeu important. Ils ont d'ailleurs des suggestions pour que la culture québécoise soit davantage populaire auprès de leur génération. Diffuseurs, producteurs, artistes, ministres de la culture et de l'éducation, prenez des notes. Premier conseil aux décideurs politiques, augmenter le nombre d'œuvres québécoises au programme à l'école. De la culture québécoise à l'école, j'en prendrai plus, dit Naël Chouaki-Drapeau. Au primaire, il se rappelle avoir visionné des films américains en classe. C'est stupide de regarder des films américains comme Les Aventures du capitaine Bobette, alors qu'on pourrait montrer des productions québécoises, dit-il. Actuellement, le minimum au secondaire, c'est 5 œuvres québécoises sur 5 ans. Bonne nouvelle pour Naël et pour la culture québécoise. Avec le nouveau programme à compter de l'an prochain, en raison d'une directive du gouvernement Legault, ce sera au moins 5 par année durant le cours de français. En pratique, certains profs font déjà lire ou visionner beaucoup d'œuvres québécoises à leurs élèves. Mais Thomas Gonzalez en prendrait lui aussi davantage, entre autres dans le cours Culture et citoyenneté québécoise, CCQ. On a juste 2 cours de CCQ par cycle de 9 jours, dit-il. Ce n'est vraiment pas assez, surtout pour les élèves dont les parents n'ont pas grandi avec la culture québécoise. C'est important de mettre la culture québécoise en valeur à l'école, mais l'influence des parents à la maison est aussi cruciale, sinon plus, qu'on vienne la majorité des élèves. Par exemple, Thomas a été étonné de constater que certains de ses collègues de classe n'avait jamais entendu parler des films de Riccardo Troggi, 1981, 1987, 1991 et 1995, quand on les a présentés en classe. « Ça m'a surpris, » dit-il. Il a vu ses films en famille. Deuxième conseil, celui-là au milieu culturel. Faites du contenu qui nous parle. Notre télé en particulier a beaucoup de difficultés à rejoindre les adolescents. J'écoutais davantage d'émissions québécoises il y a quelques années, comme « Les Pays d'en haut ». C'était une bonne série, dit Félix. Aujourd'hui, ça vient moins me chercher. J'écoute davantage des émissions sur Netflix. Jacob Branco Campagnon s'explique mal quant à lui que des diffuseurs québécois reprennent des concepts américains. « Je peux regarder la version originale américaine, » dit-il. Rose de Carufel inscrit toutefois sa dissidence. Elle trouve qu'on produit plusieurs excellentes séries télé. Quand c'est de la culture québécoise, on dirait que je me sens plus connecté, dit celle qui regarde entre autres assidûment Antigang et Stat. Cela dit, la culture québécoise ne se limite pas au petit écran. Les rappeurs québécois, d'autres styles de musique et les balados ont particulièrement la cote au sein du groupe. On me cite entre autres les balados Café Snake, Crime de Bin et les pires moments de l'histoire. Parmi les 8 élèves, Rose est la seule qui consomme majoritairement de la culture québécoise, télé, films, livres, musique, balado, etc. 4 d'entre eux en consomment environ à 50% et 3 d'entre eux n'en consomment pratiquement pas. Voilà pour le portrait robot du groupe qui n'est évidemment pas un échantillon représentatif. Troisième et dernier conseil aux diffuseurs d'ici et à nos élus. Rejoignez-nous sur nos plateformes numériques et forcez celles-ci à mettre en valeur plus de contenu québécois. On dit qu'il faut que les jeunes regardent des séries et des films québécois, mais ce qu'on regarde concrètement, ce sont des vidéos sur TikTok, YouTube, Instagram et des balados, dit Naël. On regarde moins la télé traditionnelle. Il faut investir dans la présence québécoise sur ces nouvelles plateformes. La culture québécoise, ce n'est pas seulement les grands médias, c'est aussi ce qu'on voit sur TikTok. Comme nous tous, les adolescents ont l'embarras du choix sur ces plateformes. Ils ont le monde entier au bout de leur téléphone. C'est tout un défi pour les créateurs d'ici. Enfin, j'écoutais du contenu québécois comme Passepartout et Toc Toc Toc, dit Maya Labrec. Plus on vieillit, plus on choisit ce qu'on aime. Nos amis nous influencent aussi. Ma meilleure amie est marocaine et on écoute beaucoup de rap français. Selon les 8 élèves, la culture québécoise est-elle appelée à disparaître dans cette immense mer de culture étrangère? Non, estime-t-il. Faites Baraka Abraham, qui a grandi aux États-Unis, ne consomme pas de culture québécoise. Elle constate néanmoins l'attachement des Québécois pour leur culture. « Je vois à quel point les gens prennent ça à cœur, » dit-elle. La culture américaine prend vraiment le contrôle, mais il faut encourager la créativité québécoise, dit Elvikeza Carrera. « Je suis d'origine rwandaise. » Et j'ai grandi en regardant beaucoup de séries et de films du Rwanda. Je comprends cette détresse, parce qu'il y a ce problème aussi au Rwanda. Je n'ai pas l'impression que la culture québécoise va disparaître, conclut Rose. Je trouve ça triste que les gens prennent plus de temps à regarder la culture américaine, la culture de nos voisins que la nôtre. C'est bien de s'ouvrir, mais on devrait aussi s'intéresser à ce qui se passe chez nous. C'était « Les ados veulent plus de contenu culturel québécois qui leur parle », un texte de Vincent Brousseau, paru le 22 octobre 2025 dans La Presse.
Thank you. les poules québécoises pondent des œufs plus verts que la moyenne, un texte de Daphné Cameron, paru le 2 janvier 2026 dans la presse. Les œufs mimosa que vous servez ont l'une des empreintes carbone les plus faibles au monde. Une douzaine d'œufs produits au Québec émet plus de 2 fois moins de gaz à effet de serre, GES, que la moyenne mondiale, révèle le premier portrait réel des émissions de GES de l'industrie des poules pondeuses. Le bilan, que la presse a obtenu, a étudié les émissions de 31 fermes ovocoles. Ensemble, ces fermes produisent près de 270 millions d'œufs, ce qui représentait environ 15 % de la production annuelle de la province en 2024. Bœuf, lait, porc, grandes cultures, maraîchers, au cours des dernières années, des centaines de fermes québécoises ont reçu un bilan carbone de leur entreprise, mais c'est la première fois qu'un calcul est possible à l'échelle d'une production grâce à un échantillon représentatif des différents types d'élevage d'œufs du paysage québécois. Les poules du Québec sont toutes des Formule 1. Image, l'agronome Sylvestre Delmotte, l'un des auteurs qui a pondu le rapport pour le Conseil pour le développement de l'agriculture au Québec. Leur niveau d'efficacité est très, très élevé, dit-il. Les poules mangent peu pour produire beaucoup d'œufs. La composition de leur moulée est gérée à l'acide aminé près, s'exclame-t-il. Une réalité qui joue gros, car près de 70 % des émissions de la filière sont attribuables à l'alimentation des poulettes. La consommation d'énergie suit avec 11 % puis les GES produits par les fumiers à 10 %. Les meuniers gardent le meilleur maïs pour les poules pondeuses parce qu'ils savent qu'aussitôt qu'il y a des petites variables, elles vont le sentir tout de suite, ajoute l'éleveur Sylvain Lapierre, qui est aussi président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec, qui a collaboré à l'étude. La nutrition des poules, c'est vraiment une science, ajoute-t-il. L'œuf ou la poule? La composition des moulées québécoises est surtout faite de grains comme le maïs et le soya. Ce qui vient alourdir le bilan carbone des moulées, c'est la présence de sous-produits animaux, c'est-à-dire des farines animales produites à partir des restes des abattoirs. On pourrait dire, souligne Sylvain Lapierre, on ne les utilisera pas. Notre bilan carbone va descendre, puis notre industrie va paraître mieux. Mais ces résidus-là d'abattoirs, si on ne les valorise pas, ils s'en vont au centre d'enfouissement, ce qui fait que collectivement, on n'a rien gagné. C'est de l'économie circulaire. Ce sont des sources de gras et de protéines. Et si on ne les utilisait pas, il faudrait cultiver plus de superficie pour produire des protéines, ajoute Sylvestre Delmotte. Les résultats. Alors que bon nombre de consommateurs cherchent à faire des choix alimentaires qui respectent l'environnement, des études comme celle-ci permettent de passer de la théorie à la pratique en chiffrant les émissions dans le contexte agricole québécois. L'ensemble de la chaîne de production a été analysé, d'abord du berceau, soit à partir de la production d'œufs d'incubation pour produire des poussins, jusqu'à la sortie des poulettes vers le pondoir. Les chercheurs ont ensuite documenté les émissions durant la période de ponte jusqu'à la fin de la vie de l'oiseau. Au Québec, la moyenne des émissions totales de GES liées à la production d'œufs s'élève à 1,3 kg en équivalent CO2, EQCO2, par douzaine d'œufs, montre la recension. À titre comparatif, En 2022, au Canada, l'empreinte carbone moyenne était évaluée à environ 1,7 kg en équivalent CO2 par douzaine d'œufs. D'un point de vue mondial, l'étude de Poor et Nemisek, considérée comme l'étude de référence en matière de calcul d'émissions de GES des aliments, a établi la moyenne mondiale d'une douzaine d'œufs à plus de 3,4 km en équivalent CO2. Le Québec fait aussi bonne figure par rapport à l'Europe. En Angleterre, une autre étude a chiffré les émissions d'une douzaine d'œufs à 2,1 kg en équivalent CO2 et une autre réalisée en Espagne à 2,6 kg en équivalent CO2, peut-on lire dans le rapport. En Europe, les poules mangent de la protéine qui vient du soja, mais le soja est importé du Brésil et pour produire ce soja, on déforeste, ajoute M. Delmotte. Donc, quand on calcule l'empreinte de carbone du soja brésilien, elle est énorme par rapport à notre empreinte carbone de soja québécois qui, lui, n'a pas entraîné une déforestation pour être produit, explique Sylvestre Delmotte. Plusieurs autres facteurs contribuent à la faible empreinte carbone des œufs de la belle province, l'hydroélectricité et l'efficacité énergétique des poulaillers influencent les résultats. On marche au dixième de degré avec plusieurs sondes réparties dans le poulailler pour essayer de ne pas avoir une petite zone plus froide, ajoute M. Lapierre. L'étude se poursuivra cette année avec l'analyse de 30 nouvelles fermes. On verra notamment si l'hypothèse selon laquelle le système des poules en liberté a un plus grand poids carbone s'avère. Car plus elles bougent, plus elles mangent. Ce que le consommateur demande, c'est de plus en plus des poules en liberté, sans cage, pour lesquelles l'efficacité des animaux diminue. Parce qu'en fait, un animal en cage, il dépense très peu d'énergie dans ses mouvements. On testera aussi la prolongation de la vie des poules de quelques mois, ce qui permettra d'amortir les GES produits durant le stade de poussin à poulette. Des pistes seront explorées pour diminuer les émissions du fumier. Les résultats sont très intéressants, explique Sylvain Lapierre. Mais nous autres, le but de notre participation, c'est surtout d'aller chercher où est-ce qu'on peut aller s'améliorer. C'était « Les poules québécoises pondent des œufs plus verts que la moyenne », un texte de Daphné Cameron, paru le 2 janvier 2026 dans la presse.
Le pacte Canada-Europe contre les menaces de l'IA, un texte de Normand Lester publié le 11 décembre 2025 dans le Journal de Québec. Lors de la première réunion du Conseil du partenariat numérique Canada-Union européenne à Montréal, le ministre fédéral de l'intelligence artificielle, IA, Ivan Solomon, a signé deux protocoles d'entente avec Enna Virkkunen, la vice-présidente européenne Sécurité, Démocratie et Souveraineté technologique. Cette initiative intervient dans un contexte de profonde division entre l'Union européenne et les États-Unis concernant l'IA. L'Europe est favorable à une réglementation de l'IA, tandis que les États-Unis, sous Donald Trump, s'y opposent. De plus, à la suite de la publication de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine, Trump a repris ses critiques acerbes à l'égard de l'Europe en train de se délabrer et de ses dirigeants stupides. Les propos de Trump et ses politiques économiques et diplomatiques erratiques amènent encore une fois l'Europe et le Canada à faire front commun dans le domaine de l'intelligence artificielle, IA, dont va dépendre, pour le meilleur et pour le pire, l'avenir de la planète. Le Canada et l'Europe se distancient des États-Unis. Ottawa et Bruxelles ont l'intention de collaborer en vue de l'adoption de l'IA dans des secteurs économiques stratégiques et s'engagent à accélérer son adoption. C'est, je le souligne, très important pour nous. Montréal est un des centres de recherche les plus avancés au monde en IA et va profiter de cet accord. Ainsi, le Canada et l'Union européenne prévoient faciliter le partage de connaissances et la mise à l'essai de technologies pour défendre leur souveraineté numérique, alors que l'IA est en train de transformer l'économie mondiale. En juin dernier, Mark Carney avait lancé ce nouveau partenariat stratégique avec sa présidente Ursula von der Leyen. Il va permettre de développer conjointement des modèles d'IA avancés dans des secteurs qui présentent actuellement des menaces pour la planète comme les changements climatiques. Protéger les médias des attaques IA. Le passage au numérique du monde médiatique a accentué sa dépendance à l'égard de plateformes d'information en ligne et les risques que l'intelligence artificielle fait peser sur le journalisme. Un nombre limité de plateformes, surtout américaines, mais quelques-unes chinoises, dominent l'univers numérique. Le communiqué conjoint déclare que le Canada et l'Union européenne vont développer ensemble des technologies défensives pour assurer l'intégrité de l'information en ligne face aux menaces posées par les capacités de manipulation de l'IA générative. Il ajoute que le partenariat Union européenne-Canada vise à assurer que l'accès à des médias indépendants, fiables et pluralistes sur les plateformes en ligne. Les deux parties s'engagent aussi à tenir les plateformes en ligne responsables des risques pour la santé mentale et physique et le bien-être des mineurs. Le ministre Solomon signe également un accord avec le ministre britannique responsable du numérique et un nouveau partenariat avec l'Allemagne dans les domaines de l'IA et des technologies quantiques. Pourra sans doute en profiter l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke, un centre de recherche réputé dans ce domaine. C'était Le pacte Canada-Europe contre les menaces de l'IA, un texte de Normand Lester publié le 11 décembre 2025 dans le Journal de Québec.